Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez RTF et tout de suite c'est Cinéscopie, le magazine du cinéma et de la musique de film, une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 22h30 pour vous parler de l'actualité du cinéma, l'actualité également du support physique DVD, Blu-ray et de musique de film. Alors la musique de film, l'actualité de la musique de film, c'est un concert qui est annoncé le 30 mai à Paris au Palais des Congrès. Concert hommage au film de Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano sera d'ailleurs présent ce jour-là pour, entre chaque musique de ses films, eh bien parler justement de ses films. Et c'est donc un hommage symphonique. Alors, moi, je pense que ça vaut le coup d'être vu, parce que quand on sait que, évidemment, le soin apporté par Jean-Jacques Hano à la bande-son de ses films, on ne peut être que, évidemment, hypé par l'arrivée de ce spectacle. Alors, on peut citer, évidemment, la musique du Nom de la Rose, de musique signée James Horner, et puis, évidemment, L'Ours de Philippe Sard, ou encore Wolf Totem de James Horner également. Il a pas mal travaillé avec James Horner, hein, finalement, Jean-Jacques Hano. Voilà, donc je vous conseille ce spectacle qui aura lieu donc le 30 mai, me semble-t-il, au Palais des Congrès, concert symphonique en hommage au film de Jean-Jacques Hano, en sa présence même. La musique de film, c'est aussi l'édition discographique avec un label espagnol, Quartet Records, qui nous annonce aujourd'hui la réédition de la musique d'un polar, Copland. Copland, c'est un polar avec un Sylvester Stallone totalement transformé, un rôle vraiment très très différent de ce qu'il avait l'habitude de faire. Là, il joue le rôle d'un shérif. Un shérif qui apparemment a un côté un petit peu bené comme ça, mais qui en fait comprend plein de choses et va finalement lutter contre la corruption qui gangrène les rangs de la police dans son quartier. Donc Copland avec une musique signée Howard Shore. Howard Shore qu'on connaît, que vous connaissez parce qu'il a signé la musique du Seigneur des Anneaux, mais aussi de celle de quelques thrillers comme Le Silence des Agneaux et quelques autres, Seven aussi. Donc voilà, là on est évidemment avec Copland dans une ambiance un petit peu plus thriller, mais aussi jazzy. Voilà, c'est un Howard Shore peut-être un petit peu plus difficile d'accès. Voilà, mais en tout cas, c'est la totalité de la musique que nous propose Quartet Records sur deux CD. Voilà, c'est un double album. L'actualité, c'est aussi l'actualité littéraire, l'actualité des magazines. Et je voudrais vous signaler, dans le dernier numéro de Positif, le numéro de mars, tout d'abord, une interview très intéressante de Xavier Giannoli pour son dernier film « Les rayons et les ombres » qui va sortir le 18 mars. Une interview au long cours où Xavier Giannoli revient sur la jeunesse du film et sur le casting, puisque, vous le savez, c'est un film où l'on retrouve dans le rôle principal Jean Dujardin, l'histoire vraie de Jean Luchaire et de sa fille Corinne Luchaire qui ont collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le film est quand même plus nuancé qu'il n'y paraît. C'est un film qui dure 3 heures, hein, donc on est impatient de découvrir le film de Xavier Giannoli. Alors, en plus, dans ce numéro de Positif, il y a quand même un dossier assez passionnant sur un réalisateur italien dont on parle assez peu finalement, et pourtant il a fait des films tout à fait excellents. C'est Valerio Zurlini, et voilà, rien que pour ça, je vous conseille de vous procurer ce numéro Positif. Valerio Zurlini, d'ailleurs, qui est l'auteur d'un film tout à fait formidable avec Alain Delon, qu'on connaît finalement assez peu, c'est Le Professeur, et que moi je vous conseille parce que on a un Delon vraiment très mélancolique dans ce film. Si vous aimez l'acteur, vous allez adorer ce Professeur de Valerio Zurlini. Bah donc, je vous conseille ce dossier, puisqu'il y a pas mal de films de Zurlini qui sont évoqués, Soleil trompeur notamment, Été violent, qui est un des meilleurs films de Zurlini. Voilà, donc c'est quelqu'un qui savait aussi filmer toute une génération, qui savait filmer les femmes. Voilà, donc c'est dans le dernier numéro de Positif. Voilà, pour commencer cette émission, et puis évidemment, on peut déjà vous rappeler que la semaine prochaine, le 16 mars, eh bien, ce sont les Oscars, hein, puisque c'est vrai qu'on a eu toute une ribambelle de cérémonies, de prix, de récompenses, il ne manquait plus que les Oscars, et ça arrive très prochainement, alors... Je ne sais pas si Timothée Chalamet a finalement remporté la statuette, parce que c'est vrai qu'il a été nommé à l'Oscar, pour le prix d'interprétation dans plusieurs cérémonies, comme les British Film Awards. Bon, il ne l'a pas eu. Récemment, il y a une cérémonie qui s'appelle la cérémonie des acteurs, The Actors. C'est les acteurs, en fait, qui se remettent des prix entre eux, en quelque sorte. Et donc, c'est pas Timothée Chalamet qui a obtenu le prix. C'est Michael B. Jordan pour Sinners. Moi, ça m'a un peu surpris, d'ailleurs. J'aurais pensé que c'était, Leonardo DiCaprio, oui, mais non, c'est finalement Michael B. Jordan. C'est vrai qu'il joue un double rôle d'ailleurs dans ce film, il joue le rôle de frère jumeau. Voilà, donc on attend le résultat des Oscars la semaine prochaine. Laurent, bonsoir, comment vas-tu ?
Bonsoir, bonsoir Chris, bien ma foi, en pleine forme ouais. Parce que voilà, on a passé une agréable semaine, profité. Du 7e art, mais aussi de notre violon dingre, c'est de la musique.
Exactement, puisque nous avons assisté ce week-end à un concert de jazz, ma foi, très réussi. C'était au Lido, oui. Samedi après-midi, oui. Un concert qui se déroulait dans le cadre de l'exposition Art Nouveau, et puis je crois en association avec Jazz Éclat des Mailles.
Voilà, tout à fait, c'était le concert de clôture en fait de cette expo qui se terminait je crois
d'ailleurs soir peut-être même encore aujourd'hui, je crois qu'il y avait encore
il y avait deux jours je crois, oui, c'est aujourd'hui, vous aviez jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu
en
tard
en fait, c'est ça, ouais, voilà.
mais
c'est une belle formation qui est venue,
c'est vrai,
c'est le Galad Moutos Galahad, parce que vous peut-être prononcer comme ça. Galahad, c'est un prénom celtique, les chevaliers de la table ronde.
Oui, oui, oui.
Voilà. Et le chevalier de la musique, Galahad Moutos, Big Band Orchestra, formidable.
Oui, que apparemment, les organisateurs du festival Éclat des Mailles souhaitaient intégrer dans leur festival à plusieurs reprises. Et bon, ça n'a jamais pu se faire pour divers impératifs. Et là, pour le coup, ils ont intégré ce concert de cette exposition. Alors c'est vrai que le seul petit regret, c'est la contrainte du temps. C'est vrai que le format n'était pas un format traditionnel d'un concert, avec donc la particularité de pouvoir s'étendre en longueur et de profiter de certains rappels.
Là, une heure et demie de musique.
Une heure et demie de musique. Mais bon, c'était un petit peu contraint par le timing. Mais voilà, c'était un excellent moment qu'on a passé. Alors bien sûr, bon, il faut apprécier la musique jazz, mais c'était quand même un grand hommage au jazz des années 20, du jazz swing.
Ouais.
Et donc, une grande nostalgie. Et puis bon, c'est vrai que c'est un jazz qui se perd un petit peu aujourd'hui, et c'était vraiment très intéressant de le remettre sur le devant de la scène avec des compositions tout à fait aussi originales, hein, même s'il y a eu des reprises de grands classiques de jazz.
C'est un peu un mix des deux.
Voilà, donc franchement, c'était une belle opportunité. C'est une très très belle formation de 7 musiciens plus une chanteuse.
Ah oui.
Donc voilà.
Non, c'était très bien. En plus, Galahad Moutos, le leader de cet orchestre, qui est le pianiste de cette formation, est un musicien de formation classique, expert en musique baroque. Il aime beaucoup Rameau, Couperin, mais aussi il a cette passion du jazz. Et puis cette solide formation classique lui permet bien sûr d'écrire, de proposer ses compositions que nous avons pu entendre. Et c'est vrai que voilà, c'est une musique vraiment enivrante, euphorisante, on pourrait dire.
Oui, hein? oui. L'avantage du, enfin, c'est pas un avantage, mais c'est que le jazz, a des est vraiment un domaine et une musique qui est très ouverte. Hein, donc c'est aussi quelque chose qui est très ouvert, qui propose aussi, qui peut proposer l'improvisation. Donc c'est vraiment on le voit quelquefois, enfin chaque année à travers le festival Éclat des Mailles, qui est quand même une référence, hein, et pas que régionale. Et donc là, pour le coup, voilà, c'était une belle réussite, en tout cas, et un beau moment qu'on a passé.
Donc on remercie les organisateurs, hein, franchement, c'était une super bonne idée. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà, et ben évidemment, on a enchaîné avec un film, hein, bien sûr, hein, on va pas se le cacher, mais on vous en parlera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas, dans les films de l'actualité. Ben, on verra, on va réfléchir à la question. Bon, mon cher Laurent, peut-être d'ailleurs tu parles de musique, mais peut-être allons-nous commencer en musique.
Bien oui, alors là, on va partir un petit peu, bah, planer un petit peu sur... Parce qu'on va commencer par un love theme d'un grand film. Grand film parce que nous sommes en 1960, un film d'aventure, de guerre d'ailleurs. Je vais peut-être pas vous donner le réalisateur tout de suite parce que bon, très très connu, et puis voilà, c'est souvent d'ailleurs, la plupart de ces films sont des références dans le monde du 7e art, parce que tout simplement il a repoussé les limites en termes de réalisation et d'écriture. Et quasiment chacun de ces films ont été, quand on parle de référence, eh bien, très avant-gardistes au moment de la réalisation. Donc là, pour le coup...
Alors, quelques indices, quand même.
Bah, oui, oui, bien sûr, bien sûr.
On veut jouer, mais il faut avoir quelques indices.
Alors, la distribution est époustouflante, hein, et étincelante aussi. Hein. Ah. Alors, nous avons John Gavin, Tony Curtis...
Ah oui, ça se précise, j'ai une petite idée là.
Charles Lawson,
ouais.
Peter Ustinov,
ah voilà, oui.
Gene Simmons, Laurence Olivier, et le dernier, bah, forcément le...
C'est le héros.
Le héros, Kirk Douglas.
Ça ne nous transporterait pas dans l'Antiquité romaine, ce film-là ?
Eh bien, si, je crois, nous sommes à Rome... 69 avant Jésus-Christ, et donc ça raconte l'histoire d'une révolte de gladiateurs qui éclate, et à sa tête, eh bien un esclave et gladiateur qui mène ses troupes à la victoire, c'est Spartacus,
oui.
Et la musique est dessinée par un grand compositeur. Alors peut-être pas forcément toujours très facile d'écoute, hein, mais compositeur émérite parce qu'il il a signé vraiment des très grands classiques. Donc, outre Spartacus, on lui doit aussi Cléopâtre, entre autres.
Oui. Un très bon nommé Désir aussi, ouais, dans un autre genre.
Ouais. Là, dans ce registre-là, c'est vrai que bon, ces deux bandes originales sont assez... alors, pas semblables, mais enfin, voilà, c'est un petit peu dans la même veine. Et donc... Là, on va écouter le thème d'amour et le final, en fait, du film. Un thème d'amour qui est vraiment superbe. Peut-être un des plus beaux thèmes d'Alex North. Il a, je crois, composé aussi la musique de Western avec les Cheyennes, me semble-t-il.
Il a travaillé avec John Ford, John Huston aussi, sur Les gens de Dublin, qui est une de ses dernières partitions, je crois. Et voilà, Alex North, c'est vrai que bon, c'est comme une référence. Il a introduit aussi, il a fait partie de ces compositeurs qui ont introduit le jazz dans la musique de film, tout comme Herbert Bernstein, Henri Mancini ont pu le faire. Et je pense notamment avec ce tramway nommé Désir. Mais c'est vrai que là, on est dans une musique, évidemment, avec Spartacus et Cléopâtre, très, plutôt symphonique, effectivement. Mais il y a toujours une exigence d'écriture chez Alex North.
Toujours extrêmement rigoureux, et c'est vrai, c'est une surprise, enfin en tout cas pour l'époque, parce que c'est vrai que des films comme ça, il y a un compositeur tout trouvé, c'est Miklos Rosa, et là ce n'est pas le cas, et donc on va écouter cela, et j'ai pas oublié, je ne vous ai pas donné donc, le metteur en scène, mais je pense que vous le connaissez, enfin si vous êtes un peu féru quand même en cinéma et en grand classique, c'est Stanley Kubrick, voilà.
Et d'ailleurs, Stanley Kubrick refera appel à Alex North plus tard pour la musique de 2001, Odyssée de l'espace. Oui. Alors là, ça va pas très très bien se passer, en fait, finalement, entre les deux hommes, puisqu'on n'entendra pas finalement la musique d'Alex North dans le film, dans la version finale du film, enfin la version que nous connaissons. Voilà. Mais cela n'empêche que, évidemment, sur Spartacus, bah là, on peut parler de chef-d'œuvre, hein, quand même.
Ah oui, une grande réussite, que ce soit cinématographique. Ou musical d'ailleurs, voilà, très grande partition, Allez, on est parti sur ce final et sur ce thème d'amour. Ça dure à peu près un petit peu plus de 4 minutes. Et on se retrouve juste après pour la première rubrique dédiée à la vidéo. Vidéo.
l'actualité du support physique, Blu-ray, DVD, Steelbook, voilà, c'est tout de suite dans Cinéscopie. Comme tous les lundis soirs, on vous fait notre petite sélection des films dignes d'intérêt qui sortent en support physique. Et voilà, donc on va partir un peu tous azimuts, hein, on va explorer différents genres avec les sorties vidéo. Alors, eh bien, tout d'abord, un film que Laurent a vu. Moi, j'avoue que j'avais un peu zappé le film, mais je sais que tu avais beaucoup aimé ce film, Laurent. C'est Muganga, celui qui signe. Un film réalisé par Marie-Hélène Roux avec Isaac de Bancolé dans le rôle principal, à ses côtés Vincent Macaigne et Manon Brèche. L'histoire d'un médecin qui, au Congo, décide de s'élever contre les violences sexuelles faites aux femmes en accueillant et en réparant les victimes. Un film assez éprouvant, je crois, mais qui me paraît vraiment indispensable à l'heure d'aujourd'hui. Un film qui vous est proposé par l'Atelier d'Images. C'est un Blu-ray, mais il n'est pas en ultra haute définition. Néanmoins, la copie est nickel chrome. Voilà, donc on a une image tout à fait parfaite. Le petit bémol de cette édition de Muganga, c'est les bonus. Bon, il n'y a pas grand chose, il y a quand même un entretien assez intéressant avec la réalisatrice du film qui dure une vingtaine de minutes et simplement ensuite une bande-annonce. C'est un petit peu dommage, peut-être sur un film comme Muganga on aurait peut-être aimé avoir un petit peu plus de un peu plus d'informations sur justement le contexte, mais en tout cas le film mérite d'exister sur ce support physique. C'est l'Atelier d'Images qui vous le propose et je crois qu'on peut vous le conseiller. Je crois que Laurent avait vraiment beaucoup aimé ce film. Alors là, je vous le conseille sans vous le conseiller, mais parce que je suis plutôt fan de la franchise, c'est Conjuring. Alors, eh bien, le quatrième épisode de The Conjuring vient de sortir, ça s'appelle L'heure du jugement. C'est Michael Chavez qui a réalisé cet épisode. Dans ce film, Ed et Lorraine Warren, eh bien, ont quelque peu abandonné leurs activités sur le paranormal jusqu'au jour où on leur demande d'enquêter sur des phénomènes inquiétants dans lesquels leur propre fille est impliquée en fait. Voilà, donc on retrouve dans ce film The Conjuring 4, eh bien Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson, la musique est signée Benjamin Wallfisch. On vous en avait parlé dans l'émission, on avait quand même été déçus par le film, on avait trouvé que d'abord c'est quand même un film assez long, hein, puisqu'il dure pratiquement 2h15, 2h20, et c'est un film assez, quand même, il se passe pas grand chose, et puis en plus c'est du réchauffé, c'est-à-dire qu'en fait on n'est plus vraiment effrayé. On avait également trouvé que le design des créatures, c'était pas top, quoi, c'est pas foufou, donc Conjuring 4, si vous aimez la franchise, vous voudrez certainement vous procurer ce Blu-ray. Alors là, par contre, c'est une édition ultra haute définition. C'est Warner qui vous propose le film dans un coffret qui vous propose à la fois le Blu-ray UHD et le Blu-ray simple. Là, évidemment, le transfert est impeccable. L'image est d'une luminosité incroyable. Donc voilà, superbe image pour The Conjuring 4 que vous pourrez... Alors, vous pouvez vous le procurer en Blu-ray simple, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le combo Blu-ray UHD. Voilà, donc en tout cas, je vous le signale quand même, mais je pense que vous avez dû l'apercevoir dans les bacs, ce Conjuring 4. Par contre, si on veut rester dans le domaine de l'horreur, une curiosité, ma foi assez intéressante, avec ce film néerlandais, Hérésie, un film réalisé en 2024 par Didier Konings. Ça se passe au Moyen-Âge, dans un petit village pieux de Hollande. Une jeune femme stérile est soupçonnée d'avoir conclu un pacte avec le diable. C'est un premier long métrage, assez glaçant d'ailleurs, et qui dénonce la maltraitance des femmes, le masculinisme et le fanatisme religieux à travers une intrigue où la sorcellerie est dépeinte de façon positive. Donc c'est vraiment assez intéressant, et en plus, esthétiquement, on a là une œuvre vraiment aboutie. Donc une belle découverte qui vous est proposée en DVD, par contre, uniquement, de bonne qualité d'ailleurs, hein, que ce soit l'image et le son, c'est pas mal, mais voilà, on regrettera quand même un Blu-ray, surtout pour ce film. La photo est comme formidable. L'éditeur, c'est Carib de Distribution. Voilà, donc vous pouvez le découvrir. Franchement, là aussi, en termes de bonus, c'est pas foufou, c'est un peu dommage. Il y a un petit module sur les effets spéciaux. On aurait aimé davantage. Ça s'appelle Hérésie quand même, et ça mérite, franchement, le détour, ça mérite d'être découvert. Voilà, il y a des petits films comme ça qui passent à la trappe, c'est un petit peu dommage. Donc, l'édition DVD permet de les redécouvrir. Et alors, un film dont on avait parlé également dans l'émission, que j'avais vu, c'est Cervantes avant Don Quichotte. Le dernier film de Alejandro Amenábar, est sorti en 2025, avec dans les rôles principaux Julio Peña et Alessandro Borghi. Retenu en détention par le sultan d'Alger, après avoir été capturé par des corsaires, Miguel de Cervantes doit chaque jour inventer des récits d'aventure qui lui permettront de survivre en captivité. Alors, c'est inspiré d'événements réels, je ne sais pas, moi je suis pas un spécialiste de Cervantes, donc je ne sais pas vraiment si tout ce qu'on en raconte dans le film est réel. J'ai quand même l'impression que c'est plutôt une fable, et une fable assez passionnante, peut-être un peu longue quand même, parce que là aussi le film dure 2h10, et moi j'avais pensé à l'époque que le film aurait peut-être mérité d'être resserré davantage. Mais en l'état, comme le film est plutôt intéressant, la photographie est magnifique, la musique est pas mal, bon, à leur endroit, Amenábar, qui se charge d'ailleurs de l'illustration musicale de son film. Donc je vous conseille ce film qui, là aussi, paraît chez Blackout, mais uniquement en DVD. Bon, un petit peu dommage. C'est vrai qu'un Blu-ray était tout indiqué pour ce Cervantes avant Don Quichotte, mais en l'état, l'image reste tout à fait acceptable. Et puis, là aussi, les bonus, on n'est pas gâté. Il y a juste un entretien avec le critique Frédéric Mercier, un entretien d'une vingtaine de minutes, tout à fait intéressant d'ailleurs, mais on aurait aimé sur ce film un appareil critique un petit peu plus étoffé. C'est un petit peu dommage. En tout cas, nous on n'avait pas détesté ce Cervantes avant Don Quichotte qui a été exploité un petit peu à la va-vite, hein. Il a pas dû rester très très longtemps sur les écrans. Je me rappelle qu'il avait été diffusé au Lido d'ailleurs à l'époque. Alors maintenant, un film italien. Vous savez que j'aime bien les films italiens, donc il fallait bien qu'il y ait un film italien dans cette sélection. Et c'est un film qui s'intitule Berlinguer, la grande ambition. C'est une sorte de biopic, puisque c'est un film qui nous raconte 5 années de la vie d'Enrico Berlinguer, secrétaire général du Parti communiste italien de 1972 à 1984. Un film réalisé par Andrea Segre avec Elio Germano, Stefano Abbati et Francesco Acquaroli. Bon, film réalisé en 2024 et qui a obtenu le David di Donatello. Alors c'est quoi le David di Donatello? C'est l'équivalent des Césars, mais en Italie. Voilà. Et il a obtenu le David di Donatello des meilleurs acteurs et meilleurs montages. Voilà. Donc un film tout à fait intéressant si vous aimez l'histoire de l'Italie. Et effectivement, c'est très très bien interprété. Là aussi, malheureusement, nous n'avons que un DVD, il n'y a pas de Blu-ray, c'est un petit peu dommage. C'est Nourfilm qui nous le propose. Alors les bonus, là par contre, c'est plutôt pas mal, puisque vous y découvrirez un entretien avec le réalisateur du film, dans un français quasi parfait d'ailleurs, et un documentaire sur la tournée du film, avec des débats, dont un avec Nanni Moretti. Voilà, donc ça m'étonne pas, parce que c'est vrai que les films de Nanni Moretti ont souvent une composante politique, bien sûr, hein. Voilà, donc c'est un DVD, mais malgré tout, l'image est de qualité. Et puis, le réalisateur a su intégrer dans son film de manière assez intelligente les archives d'époque, et ça fonctionne plutôt pas mal. Ça s'appelle donc La Grande Ambition, Berlinguer, La Grande Ambition, et c'est chez Nourfilm. Et puis voilà, je vous en avais peut-être pas parlé, je sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Le film consacré à Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere, film de Scott Cooper avec Jeremy Allen White, Jeremy Strong, film sorti en 2025. Alors là, ça s'attache à une époque particulière de la vie de Bruce Springsteen, c'est l'époque où Springsteen est en dépression. Et il décide de s'isoler pour composer ce qui va devenir son album peut-être le plus mythique, c'est Nebraska. Alors c'est alors le film, justement, il a un côté dépressif et je pense peut-être pour ça que le film n'a pas très bien marché. Laurent, tu as vu ce film? Je crois non, tu l'as pas vu. Donc en tout cas, si vous êtes fan de Springsteen, vous pouvez vous procurer ce film proposé par 20th Century Fox. Et le transfert est quand même impeccable. Là aussi, l'image est superbe. Et là, on a un Blu-ray UHD accompagné d'un Blu-ray standard. Voilà, un film, qui est un biopic sur Springsteen, qui est tout à fait passionnant. Même si effectivement, ça s'attache plutôt à cette période de la dépression du chanteur. Et puis je termine cette petite sélection par un western avec Sidonie Scalista, parce qu'évidemment Sidonie Scalista, ce sont les spécialistes du western, ils ont un catalogue impressionnant, assez conséquent. Et c'est un combo DVD Blu-ray concernant le film Monty Walsh. Monty Walsh, un film tiré d'un roman de Jack Schaeffer qui a réalisé par William Fraker. Alors c'est un western sur la fin du monde des cow-boys, avec le développement du chemin de fer, l'émergence des barbelés sur la prairie et l'acquisition des ranchs par des groupes sans âme. Donc le film du coup est assez mélancolique, avec un Lee Marvin qui incarne un homme incapable d'abandonner son cheval pour se ranger. Et ce malgré son amour pour Martine, une entraîneuse qu'il retrouve après chaque voyage, joué par Jeanne Moreau. Donc Lee Marvin, Jeanne Moreau, c'est déjà un beau casting. Superbe photographie également pour ce film. D'ailleurs, William F. Fraker, c'est un chef opérateur à la base, et c'est son premier long métrage. Donc ça, c'est intéressant de le noter. Et puis on note aussi que la musique du film est signée John Barry. Alors, c'est pas négligeable là non plus. Donc un film assez mélancolique, tout à fait passionnant, et avec dans les bonus une présentation du film signée Noël Simsolo qui est tout à fait passionnante. Donc je vous conseille franchement ce Monty Walsh. Avec, alors on peut se le procurer dans un DVD simple, mais il y a aussi le combo DVD Blu-ray. C'est chez Sidonie Scalista. Ça c'est comme ma recommandation, Monty Walsh. Mais si vous suivez l'éditeur Sidonie Scalista, vous savez qu'il y a toujours des westerns tout à fait passionnants. Eh bien, je cède le micro à Laurent et à sa sélection du jour.
Eh bien, alors je crois qu'il y aura une partie western aussi.
Ah, on aime bien les westerns.
Film d'aventure aussi, à travers pas mal de réalisations, sur un plan international, aux antipodes, avec des productions américaines, mais aussi des quelques petites aussi curiosités. Voilà. Alors, on va commencer, alors non pas par un western, mais par un film de guerre.
Oui.
Film de 1978, réalisé par Andrew McLaglen, avec une belle distribution, parce que là, c'est pas du plaqué or. Richard Harris, Roger Moore, Richard Burton, musique signée Roy Budd pour Les Oies Sauvages, The Wild Cheese. Et donc, c'est l'histoire de mercenaires qui sont chargés de retrouver un homme politique africain kidnappé. Donc, c'est un petit peu, je dirais, le côté peut-être un petit peu négatif du film, c'est qu'il faut attendre et être un petit peu patient avant que le film prenne vraiment son envol.
Ouais, quand ça démarre, par contre.
Là, pour le coup, c'est un concentré de machisme guerrier, vaguement raciste en passage, qui ne manque pas d'ailleurs d'efficacité et des acteurs mémorables, dantesques. Donc c'est BQHL qui vous le propose. Et c'est sorti en... il y avait eu un DVD, il y avait eu un Blu-ray, Et là, ça vient de sortir en 4K chez BQHL, avec des bonus, mais qui sont communs aux précédentes versions. Donc, il y a vraiment rien de nouveau sur, je dirais, sur les suppléments. Mais par contre, une très très belle copie en 4K. Donc ça, je vous le conseille fortement. C'est déjà paru et donc voilà, il faut bien sûr l'avoir dans sa DVD Tech.
Oui, c'est quand même peut-être le film, le modèle du film de commando, hein, on peut dire, c'est au sauvage.
Là, on va attaquer le film d'aventure. Et alors, un film franco-italien qui, à mon avis, est une belle curiosité. Parce qu'on connaît ce metteur en scène. C'est assez surprenant de le voir dans ce projet-là. Nous sommes en 1974, film déconseillé au moins de 10 ans, avec Renato Sestier, Virnalisi, Franco Nero, musique signée par Carlo Rusticelli, Il Retorno di Zana Blanco.
Le retour de Cro-Blanc, ça.
Le retour de Buck le Loup.
Ah, c'est Buck le Loup.
Et le film est signé Lucio Fulci.
Ah oui.
Et je ne sais plus, j'ai dit Franco Nero aussi.
Oui, dans le rôle principal.
Dans le rôle principal. Ouais. Et donc là, eh bien, on est à la fin du 19e siècle, dans le Grand Nord canadien, et l'histoire d'un chien orphelin recueilli par un enfant et un écrivain qui tente d'arrêter un chercheur d'or. Et donc, dans ce film, c'est assez surprenant parce que, au départ, je crois que le film a été destiné essentiellement à un jeune public.
Oui.
Mais le problème, c'est qu'on se demande si réellement c'était, je dirais, l'objectif du réalisateur. Parce que il y a dans le film un lynchage collectif, un incendie criminel, une avalanche mortelle, une attaque d'aigle. Difficile de déterminer véritablement si c'est vraiment un public, un jeune public ou un public adulte. Parce que là, pour le coup...
C'est le problème avec Lucio Fulci.
Et voilà. Et donc, le film, bien, en permanence, souffle le chaud et le froid.
C'est lequel de dire.
Entre des scènes, on va dire, animalières, manifestement destinées à la jeunesse, et des séquences de cruauté suggérées, ou appuyées d'ailleurs, plus proches de l'univers habituel du réalisateur de L'Enfer des Zombies.
ça donne envie de le voir, finalement.
Et oui. Et alors, en plus, dans ce film-là, il y a une scène extraordinaire, qui est une scène assez haletante, une course-poursuite finale en traîneau, qui est apparemment superbe. Voilà. Et donc, il y a un DVD qui est déjà paru, mais aussi donc une édition haute définition, et c'est chez LCJ Édition. Mmh. Donc ça, c'est une petite surprise. Mmh. Dans une copie qui n'est pas, on va dire, qui tutoie pas l'excellence, mais en tout cas, qui est dans la moyenne, je dirais, de ce qu'on peut faire pour un film comme ça. Ça aurait mérité peut-être une plus grande restauration. Mais enfin, c'est l'objectif, c'est que le film existe, parce qu'il est complètement absent des diffusions sur le petit écran. Donc voilà, c'est l'opportunité de le découvrir. Donc, le retour de Buck le Loup, Lucio Fulci. On reste dans le cinéma d'aventure, et là, pour le coup, là, on va changer totalement de c'est assez rare qu'on parle du cinéma russe.
En effet, ah oui, plutôt très rare. Mais...
Et donc là, on est en 1972, et le film est réalisé par Alexandre Stoukchko, avec Valérie Kozinets, Natalia Petrova et Vladimir Fyodorov. Et donc... c'est l'histoire d'un valeureux guerrier qui tente de retrouver la princesse kidnappée par un être maléfique que le roi de Kiev lui a promise en récompense de sa bravoure. Je n'ai pas donné le titre du film volontairement. Ça s'intitule Ruslan i Ludmila, ou Ruslan et Ludmila. Hein,
pour finalement, ça s'est bien traduit quand même.
Oui, gros travail de traduction. Et donc... c'est un film qui, je dirais, évolue dans le kitsch et dans le décoratif, avec une naïveté sentimentale, une interprétation assez figée, des effets spéciaux surprenants, et même aujourd'hui, et c'est ça qui en fait la richesse un petit peu de cette réalisation-là, et des purs instants de grandeur, d'ailleurs une conversation nocturne avec une gigantesque tête parlante, et la bataille finale qui est assez intéressante, et donc cette fable épique qui conserve un charme aussi désuet qu'étrangement fascinant, et on le doit à Artus Film,
ah oui.
Voilà, qui est plutôt spécialisé dans ce registre-là. Il nous sort quelquefois des productions, des réalisations russes, et donc c'est quelque chose qu'il faut découvrir. Et je crois que le film est présenté dans un mediabook. Donc
de l'édition.
Ouais. L'éditeur croit beaucoup en ce film, et donc on essaiera de le suivre, parce que ce sont toujours des petites éditions à peu de tirage, et donc qui ont le mérite d'exister, de faire découvrir un autre cinéma. Et donc, là, on arrive dans le western. Alors, forcément, comme tu le disais, bien un hitter incontournable, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas parler de western sans Sidonie. Je crois qu'il a vraiment la main mise sur, je dirais, 90% des westerns qui sont édités en support physique. Et donc là, on est en 1947, un film, un vieux routier du western, c'est André de Tott. Et là, il dirige Joël Malcry, Veronica Lake, Don Delfort pour Femme de Feu, l'histoire d'une jeune femme autoritaire qui engage une équipe de locaux pour tenir tête à un puissant propriétaire de ranch. Et donc, le film est relativement court, on est dans 1h35. Peut-être le côté un petit peu léger, c'est qu'il y a des seconds rôles qui auraient mérité d'être un petit peu plus approfondis. Mais ce western accroche par son atmosphère digne d'un polar où une femme machiavélique dupe son monde pour parvenir à ses fins, quitte à encourager les meurtres de sang-froid. Et donc au final, une triste hécatombe, fruit d'un jucobutisme forcené, servi par une très bonne mise en scène. Donc voilà, un film à découvrir en édition combo, DVD et Blu-ray. Et alors un petit deuxième, parce que jamais un sans deux.
Déjà celui-là, il m'a l'air très intéressant.
Oui.
En plus, Joël Macri et Veronica Lake, j'adore. Voilà.
Alors, l'autre est peut-être un petit peu moins, je dirais, intéressant dans son sujet, mais ça reste quand même un classique, c'est Fighting Man of the Plains. Et là, on y retrouve un acteur incontournable dans le registre du western. Il y a toute une série de films, d'ailleurs, qui ont été édités par, au passage, Sidonie. C'est Randolph Scott. Donc là, on est en 1949, le western, le film est en noir et blanc. Film réalisé par Edwin Marin, avec Bill Williams, Victor Jory, la musique est signée Paul Sotwell, l'histoire de ce hors-la-loi traqué depuis des années qui profite de la mort du détective qui l'a coincé pour usurper son identité et devenir shérif d'une ville du Kansas. Je trouve que les histoires sont assez originales pour ces deux films. Mmh. Ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans le registre du western et aussi à cette époque. Et donc, c'est une série B qui est vraiment très fréquentable sur la seconde chance qui offre à Randolph Scott, à la veille de sa collaboration féconde avec Bud Butcher, oui, qui est là aussi un autre vieux routier avec André de Toth, un rare rôle de tueur redouté qui tente de s'acheter une virginité au sein d'une communauté tour à tour bienveillante et suspicieuse où les truands ne sont pas toujours ce que l'on croit. Donc voilà, donc, vraiment deux films assez intéressants dans le registre du western, et on peut que féliciter Sidonie qui remet au bout du jour en fait ces films qui sont plus ou moins un petit peu perdus quand même, hein.
Oui, totalement,
parce qu'en fait on parle de Sidonie, mais c'est quand même de la sous-traitance, parce que tout simplement ce sont quand même des grandes majors qui ont les droits de ces films, mmh, et qui n'ont fait aucun effort pour pouvoir les éditer en support physique. Donc on peut que remercier Sidonie dans sa persévérance je dirais dans son jucovoutisme de vraiment mettre à jour une grande partie, parce qu'il s'en est quand même tourné dans les années 40 jusqu'à 60, début 70, des westerns. Et franchement, ça vaut le détour parce qu'il y a toute une nostalgie.
Totalement, oui.
Donc c'est quand même assez intéressant.
Oui, effectivement, la caractéristique de ces éditeurs, c'est qu'évidemment, ils vont publier des westerns qui ont déjà une certaine renommée, comme Monty Walsh, dont on parlait tout à l'heure, mais à côté de ça, effectivement, des westerns peut-être un peu plus confidentiels, mais qui méritent d'être redécouverts, comme ceux dont tu nous as parlé.
Et puis, je voulais terminer pour quand même un film français, non, pas de film coréen ou de film asiatique, film français. Parce qu'il y a eu cette nouvelle vague qui est arrivée de chez Quan Mir, et donc un film très attendu, je ne vous le cache pas, parce que ce film est un de mes préférés, en tout cas avec trois acteurs incontournables. 1960, là encore, production franco-italienne, film d'Alex Joffé, où on retrouve Gaby Morlaix, Michel Morgan et Bourvil, et le film s'intitule Fortuna. Pendant très longtemps, ce film a bénéficié, je crois, d'une édition chez René Château en DVD, mais aucune restauration comme à l'accoutumée chez l'éditeur. Et donc là, pour le coup, Quan Mir a fait bien les choses, parce qu'il le propose donc en édition Blu-ray et DVD, et restauré au passage. Et donc, ce film raconte l'histoire d'une femme et de ses enfants et d'un grand médecin parisien résistant déporté sous l'occupation, et l'histoire de ce passeur plutôt frustre, joué par Bourvil, qui découvre les responsabilités en accompagnant en zone libre cette femme et ses enfants. Et donc, le film, bien sûr, est assez chargé émotionnellement parlant et relayé par l'incomparable visage de Bourvil. On souffre, on s'émerveille, et des quelques joies fugaces que les événements retirent aussi vite qu'immédiatement au couple d'acteurs vedettes dont la complémentarité crève l'écran. C'est vraiment, on voit qu'il y a vraiment une belle osmose et un scénario qui est écrit, qui est au cordeau et qui est vraiment taillé pour ces grands acteurs. Et bien sûr, le film n'est pas proposé seul, il y a aussi des bonus et qui sont totalement inédits en haute définition, avec les coulisses du film, des interviews d'archives avec l'équipe, mais aussi le public, lors aussi d'une avant-première, ça c'est intéressant, avec les actualités et les réclames de l'époque, avec bande-annonce et possibilité de voir le film précédé d'une partie des bonus. Voilà, on remercie Quan Mir, parce que en plus de ça, il y a eu une restauration qui est relativement excellente pour l'âge de ce film. Et c'est déjà, bien sûr, disponible dans tous les bacs de bons vidéo clubs. On peut dire vidéo club.
Oui, bah, écoute, moi j'aime bien.
Moi je le dis, voilà. Voilà, sans détour, on vous parlera bien sûr des autres films. Pour ceux qui seraient très intéressés pour connaître un petit peu la salve des films Coin de Mire, eh bien, je crois qu'ils sont au nombre de 6, me semble-t-il, pour ce début mars. Voilà.
Parfait. Eh bien, merci Laurent pour cette belle sélection de films en Blu-ray DVD. Voilà, vous avez noté certains titres qui vous plaisaient. Et c'est très bien. Alors, avant de faire notre petite pause musicale, je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que une rétrospective Seijun Suzuki aura lieu à partir de cette semaine d'ailleurs, mais à Paris. Bon, nous, on est un petit peu, malheureusement, on n'aura pas alors droit à cette rétrospective.
Oui. Alors, moi, je suis un grand fan de Seijun Suzuki.
Ah oui, bah, totalement. Alors, si tu veux, là, il va y avoir la sortie d'un film, je crois, inédit en France de Seijun Suzuki. Ça s'appelle Carmen de Kawashi. Un film réalisé en 1966. C'est Carlotta qui distribue ce film en France. Et je me dis, Carlotta.
Il y a de grandes chances, oui.
Je me dis peut-être à l'arrivée un Blu-ray, une édition physique.
Alors, un Blu-ray, oui. Mais peut-être pour la fin de l'année, un coffret, pourquoi pas?
Et oui, parce que effectivement, comme c'est une rétrospective, eh bien, d'autres films sont à l'affiche, notamment, alors, c'est vrai que c'est des films, moi, je suis très fan, tout comme toi, Laurent, j'avoue. Et même si je sais que tu es le spécialiste du cinéma asiatique. Donc, Le Vagabond de Tokyo, La Marque du Tueur, formidable film qui a inspiré d'ailleurs Tarantino, La Barrière de Chair, Histoire d'une prostituée, La Jeunesse de la Bête, là aussi c'est formidable, Les Fleurs et les Vagues, La Vie d'un Tatoué, Élégie de la Bagarre. Tous ces films font partie de cette rétrospective, eh bien, proposée par Carlotta. Alors, et comme tu l'as dit, effectivement, Laurent, on peut espérer un coffret consacré à ce immense réalisateur japonais, Seijun Suzuki. Et voilà, moi, j'attends, je suis impatient de... Alors, en plus, Carmen de Kawashi a été restauré, c'est une nouvelle restauration 4K, pour ce film, qui est en fait la chronique d'une héroïne libre dans le Japon des années 60.
Alors moi, je pense qu'il y a de grandes chances, oui, qu'on le voit débarquer, si pas, en tout cas, sur le premier semestre, le deuxième semestre, peut-être à la rentrée.
Très bien. Eh bien, on est impatients de découvrir ce film pop de Seijun Suzuki. Eh bien, nous allons faire donc une petite pause musicale, non, Laurent? Qu'est-ce que tu nous as concocté?
Alors, on va démarrer un petit peu en fanfare, je dirais, pour un film qui fait partie d'une série de films qui est mondialement connu, qui a eu un succès mondial. On est en 2005 on est sur la quatrième année à l'école de Poudlard.
Ah, tu vas nous parler d'Harry Potter.
Voilà, et là, c'est la coupe de feu.
Ah oui. Qui était pas mal encore, celui-là.
Oui, oui. Ouais, et la musique était signée par un Anglais, ouais. Patrick Doyle.
Ah oui, très très bon compositeur, parce que c'est vrai que les premiers épisodes, me semble-t-il, c'était John Williams.
Et oui, l'imparable John Williams, oui. Avec son thème... bien magnifique, qui est malheureusement John Williams, c'est très difficile de s'en dispenser, parce que quand il a touché, on va dire, à une série de films, quelle qu'elle soit, eh bien le thème qu'il a écrit musicalement est obligatoirement repris, parce qu'en fait il est devenu un peu viral, je dirais.
Oui, et puis c'est un peu la signature de la série, en fait.
Voilà, mais bon, on peut prendre quand même beaucoup de séries de films.
Oui, c'est vrai.
Où en fait il est intervenu, et bon, après c'est assez compliqué de...
Ça devient iconique.
Voilà. Ouais. Donc là, on va écouter bien une sorte de suite musicale jusqu'à atterrir sur le final, en fait, d'Harry Potter et la Coupe de Feu. Et vous allez voir un mélange de thèmes, un grand maître de la musique de film.
Ah, Patrick Doyle, oui, c'est un très très bon compositeur.
J'apprécie particulièrement ce compositeur, toujours aimé. Et en plus, j'ai adoré Patrick Doyle aussi sur sa collaboration avec Varnier, Régis Varnier. Donc,
ouais. Moi, c'est plutôt avec Kenneth Branagh, mais...
Oui, mais Kenneth Branagh aussi, mais voilà, il a flirté quand même avec le cinéma français.
C'est donc, vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il a travaillé avec Régis Varnier.
Ouais. Ouais, ouais. Donc, ben voilà, nous voilà partis dans le monde de Poudlard et d'Harry Potter. Allez, on se... Bah, je crois qu'on va prendre notre balai et puis on va y aller, hein.
Ouais, écoute.
Allez, on écoute Patrick Doyle, on se retrouve juste après pour la sélection des films de la semaine. film de la semaine, ce soir.
Le son des souvenirs, film de Olivier Hermanus avec Josh O'Connor et Paul Mescal. Et puis nous vous parlerons également de Marty Suprême, le film de Josh Safdie avec Timothée Chalamet et Gwyneth Paltrow, entre autres. Et on vous dira un mot également de Scream 7, le nouvel épisode de cette franchise créée par Wes Craven, où l'on retrouve dans le rôle principal Neve Campbell. Eh bien, il se trouve qu'on va peut-être commencer par vous dire un petit mot. Je ne sais plus si on en a parlé de Scream 7, mais on va peut-être vous en dire un petit mot. Parce qu'on avait, on se posait des questions avec Laurent à l'instant, parce qu'il y a eu une grosse actualité. Bon, on a vu d'autres films, on vous en parlera la semaine prochaine, parce qu'il mérite qu'on en parle, notamment Christie, avec Sidney Sweeney, que nous avons aimé, mais on vous en parlera un petit peu plus lundi prochain. Alors, Scream 7, nouvel épisode de cette franchise qui... alors, qu'est-ce que ça vaut ? Ben, c'est pas mal, en ce qui me concerne, j'ai trouvé ça pas mal. Les points positifs du film, réalisé par Kevin Williamson, d'ailleurs n'oublions pas que Kevin Williamson, c'est le scénariste du premier Scream, donc il revient aux affaires. Alors c'était pas lui d'ailleurs qui devait réaliser le film, c'était je crois Christopher Landon, mais il y a eu des problèmes avec la production, il y a eu un renouvellement même, on va dire, de casting, voilà, les acteurs prévus, voilà, ils sont partis, le réalisateur est parti, enfin bref, ça a été un petit peu la panade, c'était un peu compliqué, et on a donc les producteurs ont fait appel de nouveau à Kevin Williamson, et qui donc arrive sur ce numéro 7. Alors, la réalisation de William, c'est plutôt pas mal, parce que bon, il maîtrise les codes. Les meurtres sont toujours aussi violents. Bon, là, on est bien dans l'esprit Scream. C'est un peu moins méta que les précédents, il faut bien le dire. Ça se veut peut-être un petit peu plus sérieux. C'est un peu slasher, on va dire, un slasher un peu plus classique. Voilà, mais c'est quand même, voilà, ça fait le taf. Je trouve que la réalisation est bien. La photographie également, il y a une très belle photo, très belle image. C'est plutôt réussi. On retrouve Marco Beltrami à la musique. Alors bon, il révolutionne rien parce que bon, il réutilise des recettes déjà éprouvées dans les précédents films. Et puis, je trouve que l'intérêt surtout de ce film, c'est de retrouver Neve Campbell, merveilleuse comédienne, qui est à Scream ce que Jamie Lee Curtis est à Halloween, voilà. Donc elle est vraiment formidable. On l'avait adorée dans le premier Scream et je trouve qu'en plus elle a s'est bonifiée avec les années. Elle a beaucoup de charisme. Moi je l'adore et rien que pour elle, c'est d'ailleurs pour elle que je suis allé voir le film pour ne rien vous cacher. Alors le film quand même a quelques problèmes. Il est peut-être déjà un petit peu long et puis surtout le scénario, bah il y a quand même quelques facilités. Je trouve que il y a des idées intéressantes dans le film. On va pas vous le spoiler. Il y a des idées qui sont plutôt intéressantes, mais il y a quand même dans le déroulé des événements, je trouve des choses qui sont pas très vraisemblables. Et puis surtout la dernière partie avec la révélation finale, moi je trouve que c'est quand même un petit peu aux fraises. Donc j'ai pas adhéré complètement à ce nouvel épisode de Scream, même si je l'ai trouvé quand même plutôt finalement assez sympathique. C'est loin d'être la purge qu'on a pu lire à droite et à gauche, voilà, que c'était quand même une cata. C'est pas la cata, mais enfin, il faut bien reconnaître quand même, je sais pas, Laurent, tu as vu le film, je sais pas si tu as vu le film, je trouve que les faiblesses se situent plutôt au niveau du scénario. Oui, c'est paradoxal, oui, hein, parce que c'est Kevin Williamson qui a vu le film.
Oui, mais bon, après, ce qui sauve un petit peu le film, c'est quand même, c'est assez bien filmé. C'est vrai qu'on se prend ça et là à trembler un petit peu, à frissonner par moments, parce que c'est bien réalisé, et puis la montée d'adrénaline est assez bien amenée, mais c'est vrai que bon, le problème de ce film, c'est l'aspect scénaristique, avec beaucoup d'invraisemblances, mais bon, après, on passe outre si on veut du spectacle, et un beau moment de film d'horreur. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu le problème dans ces franchises qui s'éternisent, c'est que pour surprendre le spectateur, c'est un petit peu difficile parce que.
Oui, surtout des vieux briscards comme nous. Hein,
c'est... Voilà, et puis bon, on est quand même au 7e, alors peut-être que...
On n'est pas au 7e ciel, on aurait aimé être au 7e ciel.
Voilà, alors peut-être qu'on va... On va prendre la route, hein, un petit peu comme la franchise Vendredi 13. Espérons que, eh bien, on n'ira pas jusqu'au 40e.
Et parce qu'au moins, avec Vendredi 13, on allait jusqu'à 13.
Voilà.
Bon, allez, on va parler d'un film, on va changer de registre cette fois-ci, ouais. Avec un film qui peut être quand même l'un des meilleurs films de ce début d'année, c'est Marty Suprême, le film de Josh Safdie, avec Timothée Chalamet, un film qui brosse le portrait d'un pongiste baratineur dans l'Amérique des années 50. Un film qui confirme le talent de Timothée Chalamet, parce que j'entends dire par-ci par-là, ouais, Timothée Chalamet, mais enfin quand même, il a joué de façon incroyable le rôle de Bob Dylan, un parfait inconnu, hein, c'est, vraiment c'était excellent. N'oublions pas quand même que il a également été très bon chez Woody Allen, et puis il y a eu Call Me By Your Name, que je trouvais également excellent. Timothée Chalamet était très très bon dans le film. Et là il revient, mais là je pense qu'il passe vraiment à la vitesse supérieure avec ce Marty Suprême. L'histoire donc de Marty Mauser qui est un jeune pongiste, à une époque d'ailleurs où le ping-pong n'a pas, on va dire, la cote qu'il a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il est champion du monde, tout le monde regarde, il est aux Jeux Olympiques.
Bah, c'était un sport qui était réservé au soleil levant.
Oui, c'est ça.
Et donc là, pour le coup, c'est peut-être le personnage qui va faire exploser cette activité sportive outre-Atlantique.
Voilà. Et donc, Marty Mauser, lui, alors c'est inspiré d'une histoire vraie, en fait, dont l'ambition et l'obsession, même, on peut dire que ça devient une obsession, c'est de rendre son sport populaire, mais aussi, c'est au-delà de ça, c'est aussi de se réaliser dans son sport, c'est-à-dire de remporter un match face au champion qui est asiatique. Voilà, le champion du monde, il est asiatique. Donc, son obsession, c'est de participer au championnat du monde qui se déroule à Tokyo. Seulement, il n'a pas un rond. Et donc, tout le film, en fait, ça va être comment va-t-il faire pour pouvoir s'inscrire, pour participer à ce championnat, pour avoir l'argent. Donc, c'est peut-être moins un film sur le ping-pong. Il y a des scènes quand même où je trouve que c'est quand même super bien fait. Alors, c'est vrai que les effets spéciaux, certainement, sont très efficaces, mais je crois que Timothée Chalamet s'est quand même pas mal entraîné au ping-pong. Plusieurs semaines pour avoir un peu la gestuelle, etc. Donc c'est assez bluffant. Il est bluffant quand il joue au ping-pong. Mais il y a quand même l'histoire de son obsession. Et c'est aussi l'histoire d'une jeunesse. Une jeunesse qui, finalement, au sortir de la guerre, veut aller de l'avant et qui est prêt à renverser tous les obstacles. Et alors, c'est vrai que la route est semée d'obstacles, c'est-à-dire d'embûches. Et c'est vrai qu'on se demande comment Marty Mauser va s'en sortir, parce que tout lui tombe dessus. Et quand on pense qu'il va s'en sortir, eh ben non. Voilà. Donc il va rencontrer comme ça plein de personnages. Il y a un côté picaresque aussi dans le film, et notamment il va rencontrer un personnage de mafieux haut en couleur, interprété d'ailleurs, ça c'est intéressant, dans le casting, par Abel Ferrara. Alors Abel Ferrara, vous le savez, c'est un réalisateur. Alors au tout début de sa carrière, Abel Ferrara, il a joué même dans ses propres films, pour des raisons évidemment financières, de budget. Mais Abel Ferrara, c'est avant tout un réalisateur et un grand metteur en scène. Et il a essentiellement réalisé d'ailleurs des films noirs, des polars. Et on le retrouve ici, et je trouve qu'il est excellent. Et il y a une scène notamment dans un hôtel avec où il est question de baignoire. J'en dis pas plus, vous allez voir, mais c'est franchement hilarant et le personnage est formidable. Une comédienne aussi qu'on revoit, et avec plaisir, c'est Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, vous la connaissez parce qu'elle jouait dans Iron Man, côté de Robert Downey Jr. Mais là, elle joue un rôle un peu à la Gloria Swanson, une actrice vieillissante sur le retour, voilà. et qui est marié à un entrepreneur. Voilà, il y a aussi en creux d'ailleurs une critique un peu du capitalisme, évidemment. Bon, j'en dis pas plus. C'est beaucoup de choses. C'est un film assez riche, assez dense finalement. Et voilà, Timothée Chalamet, qui est un personnage qui est pas aimable. Et ça, c'est intéressant parce que le film arrive à nous intéresser quand même à ce personnage qui est plutôt arrogant, qu'on n'aime pas, mais qui va quand même évoluer. Et voilà, j'en dis pas plus. Mais voilà, donc il y a quand même ce tas parcours comme ça, et dans cette Amérique magnifiquement reconstituée, parce que quand même il faut dire un mot sur à la fois la direction artistique. La direction artistique, elle est due à Jack Fisk. Jack Fisk, c'est un des grands designers, directeurs artistiques d'Hollywood. Il a même d'ailleurs réalisé un film lui-même avec son épouse Sissy Spacek, c'était Raggedy Man. Et puis, à la photo, c'est Darius Kondji, magnifique chef opérateur.
Oui, d'ailleurs, qui est collaborateur de, quand même, des non moins primés Terrence Malick, quand même.
Eh oui.
C'est quand même. Et aussi David Lynch.
Donc c'est vrai que ils se sont entourés d'une équipe. Là, c'est vraiment gagnante parce que en plus le film a une vraie énergie. C'est-à-dire qu'il a vraiment l'énergie de la jeunesse, littéralement. On s'ennuie jamais parce que le film dure deux heures et demie à peu près. C'est 2h29 précisément, mais on s'ennuie pas. C'est-à-dire que le film est toujours en mouvement. Donc il y a une sorte d'urgence tout le temps dans le film, et dans une Amérique des années 50 reconstituée comme il faut, mais c'est jamais non plus décoratif. On y croit à tous ces décors.
Moi, ça me fait penser quand même un peu à Scorsese, hein, au cinéma de Scorsese.
Ah oui, une dimension scorsésienne, oui.
Ouais.
Et d'ailleurs, dans le parcours de ce personnage, moi, j'ai un peu pensé au film After Hours. Là, par contre, tout se passait en l'espace d'une nuit, où tu te demandais comment le personnage allait arriver au bout de la nuit, dans quel état aussi. Hein, donc là, ça se passe évidemment c'est un petit peu différent, mais il y a un peu cette idée-là, et effectivement, le côté effectivement, la caméra est souvent en mouvement. Il y a pas mal de choses qui ressemblent au cinéma de Scorsese. Cette énergie aussi. Effectivement. Laurent, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ?
Oh, c'est en tout cas un excellent film. Bien, en tout cas, moi, je parlerai beaucoup sur l'interprétation, bien sûr, Timothée Chalamet, mais il faut dire que Joss Safdie a soigné quand même sa mise en scène, et c'est vrai que le film est d'une limpidité. Sur 2h30, on ne s'ennuie pas un seul instant. C'est vraiment une réelle maîtrise. C'est pour ça que je parle de Scorsese, parce que c'est un peu comme les films de Scorsese. Il y a vraiment on sent cette capacité à mettre en image cette histoire qui n'était pas si facile que cela. Et en plus, dans le monde du ping-pong, qui est peut-être pas forcément le sport qui est le plus apprécié au 7e art, donc du coup c'est une belle découverte. En plus que Timothée Chalamet est entouré quand même d'excellents acteurs, même sur les seconds rôles. Vraiment, le film a un équilibre du diable. C'est vraiment, on sent vraiment qu'il y a eu un gros, gros, gros travail d'écriture. Et ça se sent, ça transpire en tout cas à la projection. C'est vraiment un grand film. Je pense que ça fera partie de ces films qui resteront dans le palmarès 2026. Voilà.
Ouais. Et c'est vrai. Alors en plus, reparler un tout petit peu du casting, il y a une actrice, qui est utilisée à contre-emploi une sorte de contre-emploi dans le film. C'est Fran Drescher. Et Fran Drescher, vous la connaissez, c'est elle qui joue le rôle de la nounou d'enfer. Vous savez, cette fameuse sitcom, cette comédie-là, qui est vraiment sympathique d'ailleurs. Et là, elle joue le rôle de la mère de Marty, voilà, tout simplement, dans le film. Et vraiment, on a comme là, un film assez exceptionnel, je pense, qui nous emporte. Franchement, c'est un film assez euphorisant, effectivement. On ne s'ennuie pas une seule seconde, on n'a qu'une seule envie, finalement, c'est de le revoir.
Oui, c'est, on est pris pendant le film à avoir ce plaisir coupable, parce qu'on est totalement hypnotisé par cette histoire, même si, en tout cas, moi ce que je pourrais vous conseiller, c'est que même si le synopsis, si l'histoire ne vous attire pas plus que cela, allez voir le film, parce que véritablement, vous serez conquis. Dans la qualité, en tout cas, de réalisation et d'interprétation.
Oui, c'est vrai qu'on est quand même surpris, effectivement, constamment dans ce film. Il y a toujours des rebondissements et c'est assez plaisant. Alors, eh bien maintenant, un film un petit peu moins bruyant, un peu moins frénétique, on va dire, c'est Le son des souvenirs, le film d'Olivier Hermanus avec Paul Mescal et Josh O'Connor, un film qui nous entraîne dans le Kentucky des années 1917, je crois, dans le Kentucky.
Oui, début du 20e, dans les forêts du Maine. On va dire que le film, c'est... On démarre sur un cylindre de cire, minuscule relique prête à capturer une voix avant qu'elle ne s'efface. Et on dirait d'ailleurs deux archéologues, en tout cas les personnages qui sont joués par Paul Mescal et Josh O'Connor, des archéologues du sensible penchés sur un monde qui disparaît à mesure qu'ils l'enregistrent. Et c'est dans cette atmosphère un petit peu suspendue qu'Olivier Hermanus installe le son des souvenirs. Il y a une ambiance. Et alors après, forcément, si vous êtes hermétique totalement au film, ça va être compliqué. Mais si par malheur, si par bonheur plutôt, vous étiez attiré par l'atmosphère, les émotions, l'exploration en fait des différents sentiments, souvenirs qui sont un petit peu collés, je dirais, à une image musicale, eh bien, vous allez être conquis. C'est adapté d'une nouvelle de Ben Chattuck, Le son des souvenirs, qui utilise d'ailleurs une tapisserie sonore et visuelle d'une rare délicatesse. Et donc, Paul Mescal et Josh O'Connor incarnent un duo d'étudiants qui se rencontrent au début en fait du XXe siècle autour du piano d'un bar enfumé. Et donc c'est musicologues amateurs qui tombent rapidement amoureux, mais les années et la guerre vont les séparer après un bref été à sillonner les forêts du Maine pour enregistrer en fait les chants folkloriques. Et bien la caméra d'Hermanus, d'un tact presque ancien, s'attache à l'indicible, des regards qui durent une seconde de trop, des doigts qui se frôlent en manipulant ce fragile cylindre. Et donc chaque geste devient une sorte de confession, chaque silence un aveu. Et donc les paysages filmés avec la même lumière mélancolique que les bureaux gris de vivre deviennent le théâtre d'une romance aussi profonde que discrète. Et donc c'est la pierre angulaire de ce grand film sur les vies qu'on n'a pas vécues, sur les amours irrésolus et sur la nécessité de préserver ce qui nous est cher, donc les voix comme les sentiments. Et donc Mescal trouve en Lionel un rôle qui traverse les années, du jeune fermier timide à l'homme mûr cherchant à comprendre ce qui s'est perdu en chemin. Et donc, tout est nuance, modulation. C'est un film, je dirais, relativement ambitieux par son sujet et je dirais, cet exploit à transmettre un petit peu à travers les images et les situations, l'atmosphère en fait du film, à saisir cette beauté fragile qui est un moment un petit peu, je dirais, suspendu, assez léger et fugace, qu'il faut saisir avec opportunité. Et donc Hermanus, en enregistrant cette histoire, eh bien signe sans doute son plus beau morceau, un film qui murmure et aussi un film, et j'insisterai là-dessus, qui ne s'oublie pas. Et donc on a parlé tout à l'heure de Marty Suprême, et pour ma part, je dis d'emblée que ce deuxième film restera, en tout cas pour ma part, dans le palmarès de l'année 2026, parce qu'il y a véritablement une sorte d'originalité, mais aussi une finesse dans cette réalisation, cette délicatesse que rares de films peuvent approcher de si près. Et c'est un film aussi assez fragile. Franchement, c'est une excellente surprise pour ma part. Voilà.
Eh bien, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, c'est aller voir les leçons du souvenir, parce que franchement, Laurent, tu nous as donné envie d'aller découvrir ce film. Et puis, si ce n'est déjà fait, parce que je crois que le film fonctionne quand même plutôt pas mal, Marty Suprême avec Timothée Chalamet, et pas seulement, il y a un très beau casting. Sur les deux films qu'on peut vous recommander. Et puis voilà, vous pouvez toujours éventuellement aller voir Scream 7. Le film est techniquement plutôt bien réalisé. Il y a Neve Campbell, donc c'est l'argument massu pour aller voir le film. Mais allez voir Marty Suprême et Le Son des Souvenirs, franchement vous ne serez pas déçus. C'est notre recommandation de la semaine. La semaine prochaine on vous parlera de Alter Ego de Christie, entre autres. Eh bien, il est 22h21 à la pendule de RTF. Laurent, on a peut-être le temps d'écouter un petit extrait musical.
Oui, un grand classique du cinéma français, comédie d'aventure, avec notre bébelle nationale aux côtés de Marie-France Pisier, Günther Meissner, mais il y avait aussi sa petite surprise, Florent Pagny.
Dans le film. Oui, c'est vrai qu'il fait une apparition.
Nous sommes en 1982, c'est L'As des As. La musique est signée Vladimir Kosma. Forcément, on va écouter le thème magistral au piano de Kosma. Mais aussi, un petit extrait qui est totalement inédit et qui s'intitule
Alors là, je ne sais pas, voire une interrogation.
Ich liebe dich.
Ah oui, d'accord. Oui.
Tout le monde aura compris.
Oui, je pense. Ouais.
Allez, on ne fera pas de traduction. on est parti pour à peu près pas loin de 5 minutes de L'As des As.
Et après, on vous parle des films qui vont sortir sur les écrans ce mercredi.
Voilà, et on part en compagnie de Vladimir Kosma. Thank you.
Eh bien, nous venons d'écouter la musique de L'As des As, composée par Vladimir Kosma. Et bien maintenant, c'est l'heure de vous parler des films qui vont sortir sur vos écrans ce mercredi. Alors, quels sont les films qui sortent? Nous sommes... Alors, je sais qu'il y a un dessin animé japonais qui sort, voilà, qui m'a l'air assez intéressant. Voilà, et puis, voilà. Mais je crois que, comme d'habitude, il doit bien avoir une bonne dizaine de films en sortie. Je me tourne vers Laurent qui, je pense, a le listing sous les yeux. Alors.
Eh bien, il y a une quinzaine de sorties.
Oui. voilà.
Alors, c'est vrai qu'il y a un dessin animé qui est annoncé comme un véritable chef-d'œuvre.
Ouais.
On peut peut-être commencer par lui. C'est Scarlett et l'éternité de Mamoru Hosoda.
Voilà. Donc, effectivement, je pense que là, c'est à ne pas louper, hein, très certainement.
Voilà, je pense que c'est imparable. Hein. C'est l'auteur japonais d'un grand classique du cinéma d'animation des enfants loups, du Garçon et la Bête, et plus récemment de Belle, ce qui signe un bijou, vraiment, on peut dire un bijou animé, relecture personnelle et féministe d'Hamlet de Shakespeare. Voilà, c'est un film un petit peu, je dirais, à tomber par terre, pour dire.
Bon,
voilà, donc
on va se dépêcher d'aller découvrir cela en salle.
Allez, ensuite...
En restant bien accroché à son fauteuil, quand même.
Oui, pour éviter de tomber, de se blesser. alors, d'autres films, comme le film Encontro, de François Manceau. Alors, c'est des films dont on ne vous dira peut-être pas grand-chose. L'autre film, c'est une comédie de Jérémy Ferrari, mais ça, vous avez déjà dû voir quelques... bande-annonce et aussi interview de Jérémy Ferrari, c'est Les Cadors. Il y a aussi le film de Mamoko Seto, Planète, et le film aussi de Nourit Aviv, Prénom, et aussi le film de Pascal, dernier film de Pascal Bonitzer, qui n'est autre que Victor comme tout le monde.
Avec Fabrice Lucchini.
Avec Fabrice Lucchini.
Oui, ça a l'air sympathique, ça, d'ailleurs.
Après, à côté de ça, nous avons le film de Sherian Dabis, Ce qui reste de nous. Le film de Rémi Besançon, Le crime du troisième étage, voilà, qui fait penser un petit peu, je dirais, à Fenêtre sur cour, mais vraiment peut-être très éloigné de Fenêtre sur cour. Voilà, c'est une relecture, je dirais, voilà, avec en apportant une grosse touche de comédie.
Avec Gilles Lelouch. Hein,
avec Gilles Lelouch,
bien sûr. Et Laetitia Casta aussi, je crois bien.
Ensuite, on pourra voir aussi le film d'Andrea Di Stefano, Il Maestro.
Alors ça, c'est intéressant. Andrea Di Stefano, il avait réalisé Dernière Nuit à Milan, qui était un très très bon polar.
Excellent, oui.
Avec d'ailleurs le même acteur, Pier Francesco Favino, qui joue ici le rôle d'un ancien joueur de tennis qui accepte de devenir l'entraîneur d'un jeune talent timide, écrasé par les attentes de son père. Ça se passe dans les années 80.
Ensuite, on pourra voir le film d'Ureka Tsukik, c'est Little Trouble Girls. On pourra aussi voir.
Ça s'annonce pas mal, ça, ce film
oui,
sur
aussi,
l'éveil à la sexualité de jeunes adolescentes.
Et nous pourrons aussi voir Orphelin de Laszlo Nemes.
Oui, il avait fait un film choc, je crois que c'était Saul. Ça se passait dans les camps de concentration.
Le Testament d'Anne Lee de Mona Fatzwald.
Un scénario de Brady Corbett qui raconte une histoire vraie, celle de Anne Lee qui a créé un culte autour de sa personne, une sorte de religion qu'on appelait la religion des Shakers au XVIIIe siècle. Alors c'est un film qui apparemment est vraiment à la croisée des genres, qui, même la comédie musicale. Ça a l'air assez surprenant.
Et pour terminer, le film de Stinge Bouma, La traque de Meral.
Oui, un film assez anxiogène, mais inspiré d'Innus Arbre. C'est un film qui se passe en Hollande. Ça a été un scandale d'ailleurs énorme aux Pays-Bas. Une histoire de fraude fiscale. Mais moi, j'en sais pas plus, mais apparemment, ça a l'air assez passionnant. Eh bien, voilà, Laurent, il y en a pour tous les goûts. Alors.
Oui. Une belle brochette de films. Alors, qu'on ne verra peut-être pas tous sur nos écrans, mais voilà, en grande partie, bien sûr, les têtes d'affiche seront présentes et on essaiera de vous les faire partager une fois qu'on les aura vues.
Alors moi, j'aimerais bien voir Il Maestro, Scarlett, La Traque de Méral, on verra, je ne sais pas si j'aurai le temps de voir tout ça, mais... Little Trouble Girls, éventuellement. Oui, voilà. Bon, c'est très, très.
Mais je sais pas, je crois que tu as vu avec peut-être les organisateurs pour faire des projections privées la nuit.
Oui, voilà. Bon, mon cher Laurent, il est 22h et bientôt 35 minutes. Il est donc temps de nous quitter. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée et à l'écoute des programmes de RTF. Une excellente semaine également. Évidemment, allez fréquenter les salles obscures parce que le cinéma, c'est d'abord en salle, vous le savez. Et évidemment, je vous souhaite une excellente, une agréable semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ainsi qu'à toi, Laurent.
Oui, la semaine prochaine. Et si vous voulez de l'émotion grand écran, il faut aller en salle. Voilà. C'est indispensable pour avoir des émotions en grand. Et donc après, bien sûr, vous pouvez les repartager en famille lorsqu'ils sortent en vidéo physique. Mais avant toute chose, il faut aller les découvrir en salle. On ne le répétera jamais. Mais voilà, il y a de bons indicateurs hein, régionalement. Le cinéma RSC, fait peut-être pas sale clombe, mais en tout cas, depuis qu'il a été rénové et qu'il y a une proposition en fait de programme beaucoup plus importante, eh bien, ça fonctionne extrêmement bien. Et on est heureux de ce succès. Voilà. Allez, on vous souhaite une excellente semaine et on vous donne rendez-vous, bien sûr, à lundi prochain. Et puis, bien sûr, avec vos serviteurs. On sera toujours là, présents.
Fidèle au poste.
Voilà. Allez, très bonne semaine.
Ciao, ciao.
Bon film et à la semaine prochaine. Salut.